Salut et bienvenue dans le podcast Ingénieur à venir. Dans cet épisode, je reçois Julien Sabatier qui est Design Project Manager ou en français chef de projet design chez Renault. Dans cet épisode, on parle automobile, design et carrière à l'international. Bonne écoute! Bonjour Julien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur à venir. Ça va ?
Tout va très bien. Et toi ?
Très bien, merci. Et puis surtout, heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Julien, tu as 41 ans et tu as été diplômé du département génie mécanique à l'INSA de Lyon en 2005. Après un crochet par une école de design, tu as intégré l'entreprise Renault où tu es toujours salarié 16 ans après. Ton métier, c'est Design Project Manager. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Design Project Manager ?
Alors, Design Project Manager, déjà, design, il faut l'entendre comme le style. Donc, ce n'est pas la partie design, conception, comme on peut l'entendre dans certains métiers. Donc là, c'est vraiment du design industriel, donc le style. Et Project Manager, ça veut dire que je suis responsable de projets, de quelques projets du point de vue style, du point de vue design. Et donc, ça veut dire que j'encadre plus ou moins transversalement, je fais du management transversal sur certains projets avec du management de designer, modeleur physique, modeleur numérique, tous les métiers en fait du design. Et je suis aussi en charge du respect du planning, du budget, des actions, des jalons côté design pour l'entreprise, donc sur quelques projets.
Ok. Alors, quand tu parles de design, de style, c'est vraiment l'apparence du véhicule dont on parle.
C'est ça, oui. Donc, c'est toute la peau. Entre guillemets, moi, je travaille en 2D ou sans épaisseur. Donc, ça veut dire que c'est vraiment toute la peau, alors que ce soit donc extérieur, c'est ce qui est le plus vendeur, on va dire. L'intérieur, l'aspect aussi couleur et matière, donc le choix des matériaux, des couleurs, du cuir, des grains. Des chromes, tous ces éléments-là. Donc il y a des designers qui sont vraiment spécialisés pour chacun de ces métiers, donc des designers extérieurs, intérieurs, des spécialistes pour les projecteurs, les feux, les jantes, les pièces d'intérieur, et puis des designers spécifiques aussi pour les couleurs et matières.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire, c'est quoi tes outils ? Tu dessines, tu fais de la 3D ?
Alors, c'est là, à l'heure actuelle, en fait, c'est globalement chef de projet, mais c'est le cas de tout ingénieur, ou du moins comme je l'ai pratiqué jusqu'à maintenant. En fait, il faut être un peu tout terrain. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai pas besoin de faire de 3D moi-même, mais par la force des choses, j'en fais. Alors, je fais plus de modélisation en tant que tel, mais c'est plutôt de la visualisation en fait pour voir un peu ce qui est en cours, et puis donc je fais pas de design à proprement dit, parce que moi je me considère pas comme designer, même si j'ai fait une spécialisation dans le design, mais c'est illustrer des schémas de principe pour que les designers ensuite ils aient bien le contenu, le framing, le cadrage pour qu'ils puissent faire leur dessin. Et puis voilà, parce que l'idée, c'est aussi dans le chef de projet, c'est négocier avec l'ingénierie et avec le projet. Le nombre de pièces qu'on doit dessiner, qu'est-ce qu'on a le droit de modifier, qu'est-ce qu'on doit reprendre d'autres véhicules. Et donc, les designers, ils ont besoin de. Alors, il faut les laisser dans leur créativité, mais en même temps, des fois, il faut un peu les cadrer et proposer quelques solutions. Donc, moi, je me sers de Photoshop ou même de PowerPoint. On arrive à faire des croquis intéressants dans PowerPoint pour illustrer des solutions pour faire un cadrage pour les designers.
D'accord. Et donc, quand tu dis que tu es manager, enfin chef de projet, est-ce que tu es aussi chef d'équipe ? Est-ce que tu diriges des managers ou tu travailles avec eux ?
Non, j'ai aucun rattachement hiérarchique, en fait. Donc, c'est purement transversal. Et donc, je l'ai été dans le passé, chef d'équipe, mais là, pour le coup, c'est plus du tout le cas. Mais en fait, c'est complémentaire. Et puis, l'expérience que j'ai eue précédemment m'aide aussi dans du management transversal.
Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que du coup, on te confie un projet et toi, tu as des designers que tu sais que tu peux aller voir qui sont spécialisés dans différents domaines et tu vas aller voir différentes personnes pour, pour pouvoir rendre un projet terminé?
Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est que globalement, on a donc dans le cadrage du projet, voilà, on a à peu près le périmètre. Est-ce que c'est un restylage? Est-ce que c'est un modèle qui part de zéro? On a un planning type standard en fonction voilà, si c'est un modèle complet ou si c'est un restylage. Et en fonction du planning, ben on a voilà. Plus ou moins de designers, plus ou moins de modeleurs, plus ou moins de workforce, donc de ressources qui nous sont allouées. Et après, l'idée, c'est de voir avec les chefs de studio, donc les managers de tous les métiers, en fait, savoir qui c'est qui peut travailler sur nos projets et ensuite voir directement après faire briefer les designers pour qu'ils comprennent bien le cadrage et puis qu'on travaille ensemble en fait. Et donc en fait le chef de projet globalement, mais c'est le cas aussi pour tous les métiers je pense de chef de projet, c'est vraiment un chef d'orchestre qui doit emmener toute l'équipe à faire ce dont on nous demande en fait.
Donc, voilà. Ok. Et est-ce que t'avais l'air de dire que enfin T'as pas de rapport hiérarchique avec les gens de ton équipe. Est-ce que ça veut dire que tu constitues ton équipe en fonction de ton projet?
C'est ce que je disais. En fait, globalement, par exemple, en fonction de première phase de projet, on est en phase concours où il y a plein de designers qui doivent travailler dessus. Donc, il y a peut-être 5 designers qui vont travailler pendant 5 semaines. Et donc, l'idée, c'est de, voilà, de, alors, je vais pas forcément les chercher moi ou je vais pas les identifier, je vais pas choisir. Par contre, je vois avec le chef de studio qui c'est qu'on pourrait mettre sur le projet. Et ensuite, c'est un travail d'équipe, en fait, un travail entre les chefs de studio ou les chefs d'équipe, parce qu'il y a pas que des designers. Hein, la partie designer, c'est la partie la plus sexy du boulot, mais c'est une petite partie. Mais c'est aussi le cas pour les modeleurs, pour tous les corps du métier du design. Donc c'est un travail entre les chefs de projet et puis les chefs d'équipe pour identifier qui c'est qui va travailler sur les projets.
Ok. Et histoire de se rendre compte, sur un véhicule par exemple, il y a combien de chefs de projet, il y a combien de petits projets comme ça qui vont intervenir pour designer un véhicule?
Moi là en ce moment, je suis sur des projets internationaux et j'ai 5 petits projets, on va dire, à peu près, à l'heure actuelle. Quand on a un projet complet, alors 5 petits projets, parce que ça fait pas très longtemps que je suis sur le poste, ça fait depuis 6 mois, en fait, effectivement, un peu plus, 9 mois. Mais globalement, j'ai 3 restylages, et puis j'ai une version un peu plus lourde, on va deux versions un peu plus lourdes, un peu plus conséquentes, mais c'est toujours sur des bases existantes. Si on parle d'un full model, donc un modèle complet de zéro, donc par exemple une Clio, habituellement il y a un chef de projet pour faire la Clio et éventuellement, alors ça dépend de la charge en fait, ça dépend du nombre de projets, mais éventuellement il peut suivre aussi une autre voiture en parallèle, mais globalement il y a quand c'est vraiment un seul projet, enfin quand un gros projet, il y a un seul chef de projet.
D'accord, ok. Et toujours pour se faire un petit ordre d'idée, ça fait sur un gros chantier comme ça, on va dire sur la Clio par exemple, il va y avoir combien de personnes qui vont intervenir sur la chaîne de design de la voiture?
C'est très fluctuant. Globalement, il va y avoir, un designer principal extérieur, un designer principal intérieur, voire deux designers intérieurs, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de pièces à l'intérieur, si on prend en compte les sièges, tout ce qui est, au-delà de la planche de bord et des panneaux de porte, mais il y a quand même pas mal de pièces à dessiner. Donc, on va dire trois designers principaux, plus certains qui travaillent plus en transversal sur des pièces un peu standard, type des leviers de vitesse, des volants, etc., qui sont des pièces qui sont plus transversales. Ensuite, il doit y avoir, on va dire, une dizaine de modeleurs. C'est vraiment à la grosse, c'est pour donner un ordre de grandeur, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais une dizaine de modeleurs numériques et des modeleurs clés. Alors, ça fluctue en fonction des jalons, en fonction du besoin. Et à partir d'un certain moment, en fait, on passe dans du modelage classe A, ou plan de forme, où là on va définir en fait le le dessin de détail de chaque pièce, donc en fait chaque numérisation, donc pièce à pièce, donc ça peut être la planche de bord, mais aussi les deux trois obturateurs, enfin c'est vraiment dans le détail. Et là, la charge de travail, enfin la, il doit y avoir des pics à 50, 60 personnes quoi, en parallèle sur une voiture. Donc en fait c'est assez fluctuant, je dirais que ça peut varier entre selon les phases du projet de 5-6 personnes à peut-être 80 quand il y a des pics d'activité quoi. Et ça globalement c'est sur on va dire 2 ans, on essaye de réduire de plus en plus les plannings, mais de 2 ans de la partie quand on commence à se dire bon ben on va faire cette voiture, ça va être une voiture de 4 mètres, de 1,50 m de haut, etc. avec les contenus globaux de ce moment-là jusqu'à ce qu'on lance les outils, donc on a fini vraiment toutes les numérisations de chaque pièce. On parle de 2 ans à peu près. On essaye de réduire à 1 an et demi. Tout le monde essaye de réduire. On est à peu près sur les mêmes plannings par rapport à du PSA, etc. Voilà, c'est l'ordre de grandeur, c'est 2 ans.
Ok. Et est-ce qu'on peut revenir vite fait sur la chaîne vraiment de de création, j'ai envie de dire. Donc, tu l'avais expliqué un petit peu. Ça commence avec des designers qui vont faire des formes en gros, et après. Quels sont les corps de métier qui interviennent jusqu'à avoir, je sais pas, je suppose qu'à la fin vous faites un prototype avec une carrosserie déjà.
Oui. En fait, globalement, il y a des, alors les, la base c'est, on a un brief avec le produit qui nous définit, voilà, on veut faire la nouvelle Clio, on va dire, et il faut que la nouvelle Clio, je sais pas quoi, elle soit la meilleure en CO2, donc il va falloir travailler l'aérodynamique. Elle soit la meilleure en, je sais pas, elle ait des super feux et projecteurs qui soient top de technologie. Et puis autre chose, je sais pas, au niveau de la du volume de coffre par exemple. Et donc on a des briefs produits aussi avec des clients types. Voilà, c'est est-ce que c'est un célibataire, est-ce qu'il a une famille, etc. Voilà. On a ça. On a aussi des packages, donc des l'ingénierie qui prépare les grandes masses de la voiture, donc le positionnement des roues, les pare-brise, voilà, les grandes cotes de la voiture. Et sur cette base-là, il y a un concours dessin qui est réalisé, donc avec des designers intérieurs et extérieurs, qui font, donc il y a peut-être 5-10 designers qui travaillent pour faire juste des dessins. Ensuite, il y a une sélection de dessins qui est faite alors par la direction du style, donc par les patrons du design, pour dire, bon, ben voilà, sur les 20 propositions qu'on a eues, on en sélectionne 5, on en sélectionne 3, et celles-ci, on commence à les faire en numérisation, donc en digital. Alors, on ne travaille pas avec CATIA, c'est des outils qui sont spécifiques au design, donc c'est Alias ou iSensor, là, on utilise plutôt Alias chez Renault. Et donc, on va faire les voitures en 3D, un premier 3D. Ces voitures-là sont fraisées. Alors, au début, on peut passer sur des fraisages 1/5. Donc, fraisage, l'avoir en physique. Donc, c'est des fraisages 1/5 ou 1/4. C'est de la clé. La clé, c'est de l'argile. On va dire de l'argile, un peu marron. Et ça permet, en fait, d'avoir une première masse. Et après, il y a des modeleurs clés qui sont là pour affiner la clé, pour affiner le design, vraiment en 3D directement. Donc ensuite on passe par une sélection avec un peu plus de 3D, ensuite on passe à de l'échelle 1. Donc en fait l'idée c'est que on modélise, on fraise, on modifie, on scanne en 3D, ensuite ce scan il est réintégré dans les modèles, et en fait il y a des allers-retours entre le physique et le numérique pour faire évoluer la maquette en fonction des remarques qu'il peut y avoir, en fonction des problèmes qu'on peut voir en 3D. À un moment donné, on passe à l'échelle 1. Donc là, c'est des échelles 1. Donc ça a l'air de vraie voiture. Mais c'est de la clé. Et puis, petit à petit, en fait, il y a des phases de concours où on passe de 5 designers, 3 designers, 1 design. Et une fois qu'on a un go is one, donc un design qui est sélectionné, l'idée c'est de le faire maturer pour aboutir à la voiture finale. Et en fait, en même temps qu'il y a cette partie vraiment qui est pure créative, où on va d'abord regarder les masses de la voiture, donc les proportions générales, et puis ensuite petit à petit raffiner, aller dans le pièce à pièce, affiner des détails, rajouter de la, voilà, de la précision. Il y a toute la convergence aussi avec l'ingénierie qui intègre voilà des premières remarques de d'architecture, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de place pour s'asseoir derrière le volant, est-ce que on voit assez, est-ce que la voiture elle est pas trop grande, est-ce qu'elle a un suffisamment grand coffre, etc. Et puis petit à petit intégrer les retours de faisabilité, que ce soit soit du métier en interne, soit des fournisseurs, donc les démoulages, les dépouilles pour les grains, les rayons minimum pour les emboutissages, etc. Donc en fait petit à petit, donc sur ces 2 ans en fait, l'idée c'est à la fois faire évoluer le design, la partie créative, donc la partie esthétique, mais aussi améliorer en fait la partie faisabilité à proprement dit de la voiture, et puis faisabilité et aussi donc ce qu'on appelle performance ou prestation client, donc tout ce qui est au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'aérodynamique, au niveau de la visibilité, tous ces sujets. Voilà. Et en fait, l'idée, un designer, un pur styliste, en fait, c'est quelqu'un qui fait des œuvres d'art. Nous, on n'est pas là pour faire des concept cars. Ou moi, mon travail à l'heure actuelle, c'est pas de faire des concept cars. Donc, c'est pas de faire une voiture très très belle, mais qui sera incommercialisable, infabricable. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le plus beau style possible, tout en le faisant faisable et aussi au prix en quel les clients sont prêts à payer, et aussi au prix qui peut nous rapporter aussi de l'argent et de la rentabilité à l'entreprise.
Ok, donc tes interlocuteurs pour ça va être des chefs de projet de la partie industrialisation, de la partie conception mécanique aussi, c'est ça ?
C'est ça en fait, ouais, globalement. Mais donc moi je travaille à la fois en interne donc avec les designers, avec les modeleurs et avec les chefs de studio, voilà, la direction du design. Donc ça c'est plutôt pour la partie interne. Puis mes interlocuteurs côté externe, on va dire externe au design. Donc ça va être les chefs de projet ingénierie, que ce soit alors soit le voilà, il y a un chef de projet qu'on appelle un ingénieur en chef français, un ingénieur en chef qui a des responsables ingénierie pour les pièces plastiques, pour les pièces de tôlerie, etc. Donc ça va être ces interlocuteurs-là. Et puis aussi, oui, s'il y a besoin des personnes côté usine, côté process. Et il y a aussi toute la partie qui est plus produit. Donc produit, on va dire, c'est les personnes qui définissent le contenu des voitures, en fait. Voilà, est-ce que la voiture, elle va avoir combien de niveaux de gamme elle va avoir, la voiture, est-ce que ça va partir voilà du bas de gamme au haut de gamme, est-ce qu'il y a 2, 3, 4 niveaux de gamme, qu'est-ce qui va différencier le bas de gamme du haut de gamme, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu, est-ce qu'on va mettre je sais pas 6 airbags, des jantes 18 pouces en bas de gamme et 20 pouces en haut de gamme, ce genre d'éléments. En fait, donc c'est le produit qui se fait le représentant en fait du client, qu'est-ce qu'il voudra le client à la fin. Et donc l'idée, c'est voilà, on travaille avec ces 3 entités, donc la partie ingénierie, la partie design, la partie produit, pour faire la voiture qui soit la mieux pour l'entreprise à la fin.
D'accord. Et ben justement, l'entreprise, la transition elle est toute trouvée. Donc tu bosses chez Renault, tu bosses dans l'automobile. C'est quoi le fonctionnement de manière très générale, très macro, les grands pôles qu'on peut trouver chez Renault?
Alors moi je connais surtout la partie non industrielle, on va dire, enfin jusqu'au dessin. Donc un grand pôle, pas en termes de nombre de personnes, hein, c'est il y a le design là où je travaille, donc c'est à peu près on va dire l'ordre de grandeur c'est 400 personnes, un petit peu plus je pense si on prend en compte les studios internationaux, un petit peu moins sans les compter. Il y a l'ingénierie bien sûr, là il y a beaucoup de monde qui travaille là-bas. Moi, j'ai fait quelques années, j'ai fait 7 ans à l'ingénierie avant de venir au design. Et là, il y a tous les corps de métier. Donc, moi, j'ai fait de l'architecture. Donc, c'est ceux qui, comme les architectes de maison, c'est ceux qui allouent des places, des positions de pièces, et qui font en sorte que les pièces elles s'arrangent bien les unes aux autres. Il y a les responsables de la tôlerie, donc les pièces plastiques, que ce soit intérieur ou extérieur. Il y a donc dans l'ingénierie, il y a aussi des personnes qui sont bien sûr au niveau de la plateforme, au niveau des moteurs. Il y a des personnes qui sont côté labo aussi, qui travaillent sur les matériaux. Et ceux qui dessinent, ceux qui conçoivent les pièces techniquement. Ensuite, il y a un pôle qui est plus donc produit, qui définit dans les grandes lignes les futures voitures, enfin voilà, les voitures qui le contenu des voitures. Lié à ça, il y a le marketing aussi, lui son boulot c'est de vendre en fait la voiture à la fin. La communication. Après, je vois encore une fois, je connais pas tous les pôles exactement qui travaillent sur une voiture. Mais les grands, ça va être ça. Et bien sûr, après, toute la partie industrielle, donc ceux qui s'occupent de prendre les pièces, de les mettre en usine, de développer les outils pour dans les usines, et puis qui font la montée en cadence ensuite des voitures pour que on puisse petit à petit monter les premières voitures et puis monter en cadence jusqu'à 60 véhicules par heure dans les usines, quoi. Et au bon niveau de qualité tout au long de la vie série de la voiture.
Ok. Ouais. Eh ben ouais, c'est vrai que je me rendais pas compte à quel point c'était massif, quoi, comme industrie d'un point de vue conception et tout.
Il y a beaucoup de monde, ouais. Là au technocentre, donc moi je suis au technocentre de Guyancourt. Alors c'est un peu fluctuant, puis là pour le coup avec le Covid et donc le télétravail qui a pris le pas comme dans tout de partout, donc le nombre de personnes a un peu décru, mais avant le Covid globalement on était entre 10 et 15 000 sur le site du technocentre, sans compter après donc ça c'est uniquement pour faire de la conception entre guillemets des voitures. Après il y a les usines, après il y a les il y a plein d'autres parties, mais en France le gros pôle en dehors des moteurs, donc là c'est uniquement la partie conception de voitures, sans parler des moteurs et des boîtes de vitesse, voilà, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 personnes, donc c'est une grosse machine.
Et il y a un aspect assez international aussi. Il me semble que tu as bossé en Russie pour Renault.
Oui, en fait, alors soit je commence par la Russie qui est plutôt la fin, ou je commence par le début. En fait, j'ai un
projet. Ah, on va reprendre par le début. T'as raison, ouais.
Comme tu veux. C'est un peu à hasard. C'était pas forcément un souhait a priori, mais en fait, j'ai commencé mon boulot. Enfin, chez Renault. Alors après un stage, j'ai fait un petit stage de 6 mois, stage de fin d'études. Mais en fait, j'ai commencé directement en VIE en Roumanie. Alors j'ai vu que tu avais fait un podcast avec un VIE. Donc je vais pas refaire tout le blabla sur le VIE qui est un super truc. Mais j'ai fait 2 ans en Roumanie, donc chez Renault, groupe Renault, même si je travaillais majoritairement sur des Dacia, où j'étais architecte carrosserie. Globalement, donc ça j'ai fait ça pendant 2 ans, architecte carrosserie, donc c'est ce que je disais, j'étais sur une version du Kangoo, et l'idée c'était de faire en sorte que les pièces plastiques elles se montent bien dans les pièces d'hôtellerie, qu'on ait bien la place pour mettre le tuyau à carburant, etc. Donc c'était ça globalement. Ensuite, à la suite de ça, on était en pleine crise de 2008. Moi j'ai fait donc le VIE 2007-2008 et fin 2008, donc grosse crise. J'ai pas réussi à trouver du boulot en France et j'ai eu une super opportunité en fait en Roumanie où globalement j'ai pu faire ce que je voulais dès le début, c'est-à-dire travailler entre ingénierie et design. Et donc j'étais toujours à l'architecture, mais c'était un poste de convergence en fait entre l'ingénierie, le pôle ingénierie et le pôle design. Globalement, c'est de faire en sorte que les gens ils se parlent et que les ingénieurs ils comprennent ce que le design veut, que les designers ils comprennent les contraintes de l'ingénierie, et puis de faire converger la voiture au quotidien.
Ok. Et pour revenir même, donc c'est-à-dire que c'était ton souhait d'être entre l'ingénierie et le design. Et c'est vrai que donc comme j'avais dit dans l'intro, après ton diplôme d'ingénieur, tu as fait du design. C'était une volonté. T'avais besoin d'un aspect créatif dans ton métier. Comment s'est fait ce choix?
Oui, en fait, alors si on revient beaucoup plus tôt pour le coup, c'était quelque chose que je voulais. Enfin, quand j'étais au niveau du bac, on va dire, j'ai beaucoup hésité entre soit la partie pure design et la partie pure ingénierie. ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré faire côté ingénierie pour deux raisons. En fait, il y avait une raison qui était financière. Clairement, l'INSA de Lyon était gratuite, ce qui n'est pas le cas des écoles de design, en particulier celles qui sont plutôt cotées dans l'automobile. Je suis passionné d'automobile avant tout, et donc c'est voilà, il y avait ce choix-là, et il y avait aussi un choix un peu plus aussi raisonnable, on va dire, c'est que globalement, et c'est ce que j'ai vu aussi depuis 16 ans donc que je bosse chez Renault, c'est qu'en fait le boulot d'ingénieur, c'est globalement un travail d'équipe. Alors globalement, tu peux pas faire une voiture tout seul. C'est pas possible. Alors qu'un boulot de designer, t'as un travail d'équipe parce que tu travailles avec des modeleurs, tu travailles avec des chefs de projet, tu travailles pas tout seul. Mais il y a une partie quand même qui est concours. Alors ça, c'est vraiment particulier à l'automobile, je pense. Mais c'est vraiment une notion de concours. C'est-à-dire qu'il y a 5 designers qui vont commencer à faire des dessins et il y en a 3 qui vont être choisis. Bah, les 2 autres, globalement, bah, ils repasse dans une phase de concours. Et en fait, c'est un boulot qui peut paraître un peu plus solitaire parce que finalement, tu peux passer, alors c'est un peu caricatural, mais tu peux passer beaucoup de temps sans vraiment faire de voiture. Alors qu'un ingénieur, il commence la voiture, à part s'il y a vraiment des problèmes économiques sur la voiture, mais globalement, il va la finir. Il y avait un côté aussi un petit peu que je sentais et qui s'est vérifié. Que voilà, côté ingénierie, ça me correspondait mieux. Et typiquement, je sais pas si j'ai une créativité folle ou si j'aurais eu une créativité folle si j'avais été vraiment designer pour être choisi dans les concours. Alors que ingénierie, si t'es passionné, si tu travailles bien, voilà, il y a pas de raison que t'y arrives pas. Donc voilà. Donc je me suis orienté côté ingénierie, mais j'ai quand même fait GMC avec des particularités design. Donc j'ai fait option art plastique études avec option design. Et à la fin du cursus, en fait, j'ai quand même voulu passer un an de plus pour faire une spécialisation dans le design dans une grande école, donc Strat College, pour faire. Pas pour être designer, moi je me considère pas comme designer, mais pour être ingénieur spécialisé dans le design, on va dire. Donc voilà, j'ai fait mon stage qui était un petit peu lié à ça, clairement lié à ça, parce qu'il y avait aussi une notion d'innovation dans le master que j'ai fait ensuite, mais finalement dans les 2 premières années en Roumanie, j'étais très éloigné du design, enfin je parlais très peu au design, et le fait de revenir après à faire la convergence design, en fait c'est ça. Ça m'a ouvert les portes de quelque chose que je sentais qui était nécessaire, mais que je voyais pas du bout du doigt. Et c'est un truc aussi, tu m'avais demandé de parler d'une anecdote. En fait, c'est un truc qui était intéressant parce que quand j'étais à l'INSA, il y avait des forums étudiants au double mixte à l'époque, et j'avais interrogé pas mal de gens pour savoir comment ça se passait leur métier. J'avais vu notamment des personnes de chez Renault. Et quand je leur avais expliqué un peu mon souhait d'être ingénieur, mais de travailler quand même avec les designers, est-ce que je faisais une école après, etc. Ils avaient été assez froids à l'époque. Alors, je sais pas du tout leur nom, je veux pas du tout, mais en fait, la personne que j'avais eue en face m'avait dit, non, mais soit t'es designer, soit t'es ingénieur. Tu peux pas faire les deux. C'est pas possible. Donc, si t'es ingénieur, t'es dans une école d'ingénieur, tu fais ingénieur. Et c'est un truc intéressant parce que moi, je sentais qu'il y avait quand même le besoin de travailler ensemble et de pas faire un monde contre l'autre. Et finalement, c'est ça que j'ai fait depuis donc cette deuxième expérience en Roumanie où j'étais vraiment à l'interface en fait entre l'ingénierie et le design. Et c'est nécessaire à la fois dans une petite boîte où tu fais des petits objets. J'ai un copain qui fait ça, qui fait des accessoires pour les cyclistes. Finalement, il est à la fois l'ingénieur, le designer, le mec qui fait le marketing, qui fait son site internet, qui vend le. Finalement, il contrôle tout. Mais ça, c'est faisable quand t'as des petits objets. Quand tu commences à faire des pièces comme une automobile, ou ça peut être le cas aussi pour des trains, des avions, des gros objets. En fait, t'as forcément des spécialistes dans chaque métier et t'as besoin d'avoir des personnes qui font un peu le pont entre les deux. Donc voilà. Donc là, si je reprends le fil, donc j'ai fait pendant 3 ans et demi, j'ai fait l'interface entre le design et l'ingénierie en Roumanie sur, je sais pas, 5-6 projets, je pense, de mémoire. Et à la suite de ça, en fait, j'ai eu une opportunité pour aller en Inde pendant un an. où j'ai fait en fait une voiture alors qu'on connaissait pas il y a quelque temps, qui est la Renault Kwid, qui est une toute petite voiture. L'objectif c'était 3 500 euros de ou 5 000 euros, 3 500 euros je crois de vente en bas de gamme. Donc et cette voiture là après elle est venue en France, donc c'est la Dacia Spring. Qui est la petite électrique de chez Dacia. Donc voilà, c'est à peu près le même design qu'on avait conçu il y a une dizaine d'années quand j'étais en Inde. Et c'était un projet qui était assez intéressant globalement parce que c'était un projet à beaucoup de challenges. Il y avait Nissan à bord, il fallait un peu mixer les process entre Renault et Nissan. Il y avait des gros challenges en termes de prix, en termes de planning. C'était un gros projet. Et il y avait, pour moi, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'étais à la fois responsable de l'architecture carrosserie, donc ce que j'avais fait avant, et de la convergence design. Donc j'avais un rôle un peu plus global. Et ça a été la première fois que j'ai été chef d'équipe, d'ailleurs. Donc ça, j'ai fait ça pendant un an, globalement jusqu'à ce qu'on lance les outils, enfin un peu avant qu'on lance les outils. Et à la suite de ça, je suis venu en France, enfin commencer à travailler en France, globalement, où j'ai intégré le design. C'est après ça que j'ai intégré le design, où j'ai fait du travail de qualité design, où on peut maintenant, ça s'appelle studio ingénieur. Donc c'est des gens qui sont au design pour globalement trouver des solutions techniques aux designers pour faire des beaux designs. Donc en fait on est la partie technique du design pour améliorer la qualité, travailler sur les finitions, sur les jeux entre les pièces, sur optimiser toutes les contraintes techniques pour être sûr que la créativité soit pas bridée par la technique. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. D'abord en tant que pilote, donc pilote projet, et ensuite en tant que chef d'équipe. Et ensuite, je suis parti donc 3 ans, c'est ce que tu disais, en Russie, où là j'ai travaillé chez Lada. Donc Russie, c'était avant la guerre et le conflit en Ukraine. Où là, en fait, moi, mon rôle, c'était de faire le modelage classa. Donc j'étais chef de service du modelage classa. Modelage classa, c'est les personnes qui font le dessin de détail des 400 pièces d'une automobile intérieure et extérieure, en fait. Donc c'est intégrer toutes les contraintes, tous les besoins du design, donc en fait les modelages 3D du design et les contraintes techniques, et faire en sorte d'en tirer des plans pièces, en fait des dessins de pièces, pièce par pièce, pour les donner à l'ingénierie pour qu'ils les intègrent ensuite dans leurs outils. Voilà. Et en même temps, quand j'étais en Russie, l'avantage en fait de l'expatriation, c'est un truc aussi que je voulais mentionner, c'est que on est un peu une boîte à outils à faire un peu plus que ce qu'on devrait faire quand t'es en centrale, on va dire. C'est-à-dire que je faisais à la fois le classa sur 3 projets, mais en même temps j'étais la courroie en fait de transmission entre le technocentre, donc entre la France, le Guyancourt, et la Russie, pour implanter tous les process design chez Lada Design. Donc que ce soit les processus en termes d'informatique, en termes de qualité design ou de studio ingénieur, en termes de planning de réalisation d'une maquette, en termes de tous ces trucs là pour donner toutes les bonnes infos à côté Lada. Et à l'inverse, parce que il y a forcément des intérêts dans des deux côtés, c'est aussi récupérer toutes les expériences intéressantes de Lada Design pour les partager au Technocentre, pour essayer de capitaliser un peu ces trucs-là. Donc j'avais ces deux rôles en Russie. Et donc la guerre étant là, j'ai dû rentrer un peu rapidement, comme toutes les personnes de Renault qui travaillent en Russie. Et donc depuis juillet de l'année dernière, donc je suis chef de projet design sur quelques projets au Technocentre.
Ok. Voilà. Et est-ce que ça veut dire que les ponts étaient coupés avec les...
Oui, c'est dans la presse, mais globalement, en quelques mois, on a tout vendu pour un rouble symbolique. Donc oui, tous les ponts maintenant, ils sont coupés. Alors, il y a peut-être encore des ponts qui existent pour certains items, typiquement des fournitures de pièces ou ce genre de choses, et je sais même pas. Donc je m'avancerai pas. Mais globalement, tous les ponts sont coupés. Et voilà, c'est dommage pour nous, c'est dommage pour les collègues russes avec qui ça se passait bien. Il y a certains encore avec qui j'ai des contacts, mais bon, la politique et la guerre, on a décidé autrement, donc c'est comme ça.
Ok. Ouais. Petite question, mais ouais, dans tes différentes expériences à l'international, tu parlais anglais ou t'as appris aussi les langues locales?
Alors en Roumanie, au global, je suis resté 5 ans et demi à peu près. J'ai appris le roumain. C'est une langue latine et ça s'apprend. C'est assez proche de l'italien ou de l'espagnol, on va dire. Donc j'ai appris le roumain. Je dis pas que je suis bilingue en roumain, mais j'arrive à tenir une conversation. En Inde, je parlais anglais. Hein. Clairement, les langues locales indiennes, c'est très très compliqué. Donc j'ai même pas essayé de d'apprendre. Et le russe, j'ai commencé à apprendre. Alors j'ai arrêté, mais j'arrivais un peu à comprendre. Alors, j'étais pas clairement pas bilingue et pas au niveau de mon roumain, parce que c'est une langue qui est un petit peu différente, c'est pas une langue latine, mais j'arrivais à comprendre et à m'exprimer, on va dire, très très basiquement. Et je pense que c'est intéressant quand même d'essayer de faire l'effort de parler la langue. Alors c'est sûr que on peut parler anglais presque partout, mais c'est quand même intéressant d'essayer de parler la langue, ça permet de mieux s'intégrer dans le pays, quoi, tout simplement, et d'avoir des relations un peu différentes avec tes collègues. Donc voilà.
Ok. Pour changer de sujet, tout à l'heure, tu as dit que tu étais passionné de voiture, et moi j'ai une question, c'est est-ce que pour bosser dans l'automobile, il faut être passionné de voiture?
Alors, je pense que ma philo, c'est que pour travailler dans l'automobile, t'es pas obligé d'être passionné de voiture. Par contre, au design, je pense que la plupart des gens sont passionnés de voiture. Voilà. Alors après, je pense que pour moi, la passion, elle est pas la même que quand tu es étudiant ou jeune. En plus, je pense que tous les chamboulements écologiques qui sont venus, ça fait poser des questions un peu différentes, mais je pense que quand même c'est important, parce que quand on au design, au moins, quand on veut défendre une solution plutôt qu'une autre en face de l'ingénierie, il faut avoir une culture automobile, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que font les concurrents, qu'est-ce que nous on a fait dans le passé, etc. Et ça, alors tu peux l'apprendre un peu de manière basique, mais la passion, ça aide à faire que l'apprentissage, en fait, il soit transparent, en fait, pour soi. Donc je pense que c'est quand même il y a une notion de passion qui est nécessaire, en particulier au design. Clairement, dans des métiers qui sont plus un peu moins proches du produit, alors je veux dire des personnes qui sont plutôt finance ou etc. Là, je pense que la passion, elle est moins nécessaire. Même côté ingénierie, j'ai déjà vu des personnes qui s'ils avaient fait ça ou des frigidaires, ça aurait été la même chose pour eux, quoi. Mais je pense qu'au design, il y a quand même un côté passion qui est clairement plus là, et on le voit sur la, c'est tout bête, mais à côté du design, il y a le parking où il y a plutôt les gens du design qui vont se garer, et tu vois des Renault, bien sûr, mais tu peux voir aussi des Porsche, des fois des Ferrari, des voitures qui sont pas des monospaces standards, des voitures qui sont un peu plus passion, voilà.
Oui, t'as parlé un petit peu d'écologie. C'est vrai que le modèle de la voiture individuelle, il y a l'idée qui est remise en question, au moins au niveau des idées. Est-ce que c'est quelque chose qui atteint l'intérieur de l'entreprise, d'une entreprise automobile, et est-ce que ça se traduit dans ton travail?
Alors oui, c'est quelque chose qui est présent. Alors est-ce que c'est assez présent? Je sais pas. Pour être honnête, mais je veux pas forcément faire du greenwashing, mais je pense que toutes les boîtes, elles essayent d'être meilleur. Alors, je dis pas qu'on est parfait, hein, mais toutes les boîtes essayent d'être meilleures. Moi, je sais que quand j'étais en master design, mon projet de fin d'études, c'était une espèce de plateforme d'autopartage. Donc, alors c'était une bribe de ce qui peut exister maintenant, mais voilà. Donc, ce truc-là, il a toujours été présent en moi. Et typiquement, là, depuis 2 ans. Je trouve ça 2-3 ans. On a créé une marque dédiée à la mobilité qui est pas dans la possession de la voiture, mais qui est plutôt dans la mobilité au global pour faire de l'autopartage. Donc c'est Mobilize. Donc ça permet de répondre à une des questions de l'empreinte écologique de la voiture. Et puis après, dans la conception des voitures, on essaye de faire mieux. Donc on a essayé d'alléger de plus en plus les voitures parce que directement le poids, ça fait le nombre de matières qu'on dépense pour produire la voiture, mais aussi le nombre de litres d'essence qu'on va devoir mettre dans la voiture. Donc ça c'est une des réponses. Côté design aussi, il y a pas mal de trucs qui sont faits dans les matériaux où on essaye d'aller sur des matériaux qui sont plus recyclés ou qui sont 100% recyclés. Et un des challenges qui est intéressant sur lequel, alors moi quand j'étais en école de design, c'est aussi un des trucs qui était regardé par les étudiants, mais là on commence à vraiment à le voir, c'est finalement plutôt que de se dire un matériau, il faut qu'il soit parfait pour qu'on puisse le mettre dans une voiture, pour que la voiture elle soit parfaite du moment où tu l'achètes jusqu'à 10 ans de vie finalement, que ce soit un chrome qui soit parfait avec une super brillance, etc. C'est finalement mettre un peu en valeur la partie recyclabilité ou recycler de la matière. Et ça, c'est un truc qui va exister sur la future Duster, donc la future Dacia, où les pièces extérieures de plastique, en fait, l'idée, c'est de mettre en valeur les particules recyclées dans ces plastiques-là. Et c'est un challenge qui est intéressant et qui peut permettre de créer de la valeur. En fait, de pas, finalement, un des gros problèmes des matières recyclées, c'est au-delà du fait que finalement, une matière recyclée, elle sera jamais aussi bonne que la matière originale, parce que nécessairement par les process de transformation, tu vas la dégrader. Mais c'est aussi, tu vas dégrader son aspect esthétique. Et au design, c'est un truc qui forcément, nous on veut un truc qui soit parfait. Mais essayer de prendre le truc un peu à l'envers en se disant comment on peut faire en sorte que le fait que ce soit recyclé, c'est de la valeur, pas de la valeur en disant j'ai un tampon. Comme sur ton sac de supermarché, c'est un sac recyclé, mais aussi de la valeur esthétique en fait. Voilà. Et y a ce même type de travaux qui sont faits sur les textiles par exemple ou sur les moquettes pour essayer de mettre en valeur le fait que ce soit recyclé et que ce soit pas dégradé parce que c'est recyclé, mais justement c'est plus sympa et ça apporte un côté sympa à la voiture. Voilà, on l'avait sur les concept cars et de plus en plus, on essaye de le mettre en place aussi dans les vraies voitures pour les clients.
Ok, d'accord. Hyper intéressant, ok. Et bah, hâte de voir à quoi ça va ressembler les voitures dans quelques années, du coup. J'ai une question concernant... c'est peut-être un peu vague comme question. Dis-moi si t'as une réponse simple pour ça. Mais concernant la culture d'entreprise dans l'automobile, est-ce que c'est très hiérarchisé? Parce que bon, c'est quand même des gros projets sur lesquels, comme tu disais, on est obligé de mettre beaucoup de gens pour pouvoir sortir quelque chose. Donc, est-ce que c'est très hiérarchisé? Est-ce que t'as un aspect assez contraint aussi? Je sais pas, au niveau, par exemple, de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, est-ce que des fois ça vient un peu ronger parce que il y a une deadline et que c'est très carré? Enfin, comment c'est de l'intérieur cette culture d'entreprise?
Ouais, il y a forcément un côté hiérarchisé parce que c'est une grosse machine. Et c'est ce que je disais en termes d'ordre de grandeur de personnes. Hein, les chiffres que je t'ai annoncés tout à l'heure, c'est vraiment des ordres de grandeur hein, en termes d'effectifs. Mais c'est vrai que côté ingénierie, c'est une grosse machine et forcément il y a un aspect pyramidal qui est là. Côté design, donc on est beaucoup moins, de l'ordre de 400 personnes au global. Donc forcément l'aspect hiérarchique est beaucoup moins là. Et donc on a il peut y avoir entre le patron du design et puis la personne qui est plus opérationnelle, on peut quand même avoir des contacts où on peut se voir. Voilà, il y a plus, c'est un côté un peu plus familial. Il y a forcément aussi dans une grosse entreprise l'aspect de prise de décision ou des responsabilités. Donc des fois, les prises de décision, elles sont forcément plus longues que si c'est dans une petite PME où directement tu as les décisions qui sont prises. C'était un des aspects qui était intéressant quand j'étais en Inde pendant un an, c'est que l'idée aussi, c'était de mettre toutes les personnes du projet tous ensemble sur le même plateau pour que entre le directeur de projet et puis le dessinateur de base, sans être péjoratif, mais voilà, le dessinateur débutant, que la prise de décision, dès qu'il y a un problème, finalement, le soir même, et je caricature même pas, il y avait un problème le matin, et le soir, il y avait une prise de décision pour résoudre le problème. Et ça, c'est quelque chose qui est facile quand t'es dans une petite entité, comme ce qu'on avait en Inde, ou dans une PME, qui est plus compliqué quand t'es dans une grosse boîte. Et je pense que Renault, PSA, ou même les boîtes comme Airbus, c'est toujours un peu plus compliqué. Ce qu'on essaye de faire, c'est essayer d'adapter les process agiles qui existent dans l'informatique. Donc ça, on a fait ça depuis quelques années, pour les adapter à l'automobile. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que le process agile, je sais pas si c'est clair pour toi, mais c'est une espèce de finalement, il n'y a pas vraiment un cahier des charges initial qui est très précis, et le produit s'améliore petit à petit. Dans l'automobile, à un moment donné, il faut quand même appuyer sur le bouton pour produire la voiture, et il faut pas que le client il serve de bêta-testeur et qu'il se plante dans le premier app qu'il vient. Donc c'est une adaptation des process agiles pour essayer de justement faire en sorte que les prises de décision soient plus collégiales et moins pyramidales, et aussi qu'elles soient plus réactives et finalement qu'on aille plus vite dans le développement des voitures.
D'accord. Ok, hyper intéressant. Eh ben, écoute, je crois que c'est tout pour les questions que j'avais pour toi. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la fin de l'interview?
Qu'est-ce que j'aurais à ajouter?
Ou si j'ai oublié quelque chose?
Alors, je pense pour les élèves ingénieurs, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est super important d'être bon techniquement. Ça c'est sûr, mais il faut vraiment pas oublier toutes les matières molles, donc c'est-à-dire les langues, et voilà, avoir une ouverture d'esprit. Je pense que ça c'est important parce que c'est des trucs qui sont plus, je trouve peut-être plus difficiles à apprendre ou plutôt plus difficile à valoriser, et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter là-dessus. Moi je vois que voilà, au quotidien je travaille en anglais, et c'est pas un truc, encore une fois, que je pensais a priori faire, mais voilà, donc je pense que ça c'est un truc qui est intéressant. Et un truc aussi que je vois par rapport à ma formation INSA ou ma formation ingénieur, ce qu'il faut essayer de développer pour tout le monde, c'est l'aspect multitask, en fait, d'arriver à mener de front plein de choses en même temps et au même niveau de qualité, voilà, parce que c'est un truc globalement, moi dans ma vie, journée quotidienne, donc je suis sur 4-5 projets, ils sont pas tous au même niveau d'avancement, ils sont pas tous avec les mêmes interlocuteurs. Là je travaille en ce moment avec le Brésil d'un côté, Brésil et le Maroc, et puis avec l'Inde de l'autre côté, et en fait il faut réussir à passer d'un sujet à l'autre assez rapidement, et je pense que ça c'est un truc que l'école d'ingénieurs nous prépare assez naturellement à faire. Alors clairement, hein, moi dans mon boulot, une équation différentielle, j'en ai jamais vu la couleur. Enfin voilà, tout ce qu'on apprend en école d'ingénieur, je vais pas dire que c'est inutile, mais c'est c'est pas des choses que vous, au moins dans mon métier, que j'applique. C'est clair, hein, moi je fais du PowerPoint, globalement je fais du PowerPoint, on va dire. Mais par contre, il faut réussir à faire plein d'actions en même temps, à essayer faire bien les connexions entre toutes les actions que tu fais, à réussir à être synthétique. Et ça, c'est des choses qu'on apprend en école d'ingénieur. Et on les apprend comment? Ben, en apprenant à la fois à faire des équations différentielles, mais aussi en même temps à faire des TP de mécanique d'un côté, etc. À faire plein de choses en même temps. Et je pense que ça, c'est un truc que on se rend pas compte quand on est en école d'ingé, mais qu'il faut pas, voilà, il faut pas les minimiser. Et puis, est-ce que j'aurais quelque chose d'autre à rajouter? Non, juste après, enfin, confirmer ce que disait la personne en VIE ou une autre personne qui était à l'étranger. L'étranger, c'est vraiment un accélérateur de carrière. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait à l'étranger, parce que je suis passé à l'étranger, eh ben, ça a permis de gagner du temps, de prendre de responsabilités plus rapidement, parce que, on a, entre guillemets, on n'a pas le choix, et finalement, à progresser en carrière d'une manière plus intéressante. Alors, il y a des sacrifices à faire parce que on part potentiellement loin de sa famille. Ça peut être aussi un gros sacrifice pour les conjoints s'ils ont du mal à s'intégrer dans le pays ou s'ils ont lâché leur boulot. Mais du point de vue intérêt pour la carrière, c'est super intéressant parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, quoi. Voilà les derniers trucs que je pouvais avoir rajouter.
Ok. Et l'épisode avec le VIE, c'est l'épisode 27 avec Vincent de Vulder que je vous conseille. Et Julien, merci beaucoup pour nous avoir partagé ton expérience.
Merci à vous.
Et voilà, cet épisode est terminé. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Munier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir.